Alors bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on vit un été peut-être un peu particulier. Là, aujourd'hui, il fait un peu plus frais, donc on apprécie, hein, n'est-ce pas? Et là, c'est aussi la période des vacances, notamment pour les enfants et pour les jeunes. Et donc, on est dans une période où, comme je l'ai dit la semaine dernière, on ralentit un petit peu. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. J'ai discuté encore cette semaine avec un frère qui me disait « Non, en ce moment, ce n'est pas du tout le calme, c'est bien le contraire. » Et je conçois qu'on n'a pas tous forcément les mêmes rythmes. Mais ce qui est intéressant dans cette série que nous avons entamée la semaine dernière, c'est qu'effectivement, comme l'a prié aussi Francis, eh bien, le texte de l'Ecclésiaste nous parle de la vie. De la vie telle qu'elle est. Pas de la vie qu'on peut imaginer ou de la vie qu'on regarde d'un point de vue négatif, mais de la vie vraiment telle qu'elle est. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit, notamment la semaine dernière, qu'ils reconnaissaient qu'il y avait du réalisme dans ce texte, qu'il y avait du réalisme dans ce livre. Qu'effectivement, ce que l'Ecclésiaste ou le Qohélète dit ici, ben, on peut être d'accord avec lui, effectivement. On peut faire le même constat. Et nous affirmons que c'est le point de vue d'un croyant qui est en train de s'exprimer ici, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en Dieu et qui a pu observer la vie telle qu'elle est et qui nous la rapporte telle qu'il a pu l'observer. Nous avons vu dimanche dernier que pour le Qohélète, la condition humaine peut se résumer à un mot, Hevel. La condition des êtres humains a quelque chose de dérisoire, de décevant, de frustrant, de misérable. Et nul n'y échappe. Malgré l'effort des générations qui se succèdent, eh bien cette condition demeure ce qu'elle a toujours été depuis l'entrée du péché dans le monde. Hébel, dérisoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le texte que nous avons lu nous laisse la même impression. Le Qohélète n'a pas donné d'autres conclusions. Il nous livre en quelque sorte les résultats de son enquête, de son expérience de la vie. C'est comme si ce matin nous étions en compagnie de ce roi qui a tenté de comprendre ce qui fait notre existence. Il a d'abord cherché du côté de la sagesse, avant de se tourner vers la folie et vers les plaisirs. Et ce matin, eh bien, nous écoutons l'expérience d'un roi qui s'est lancé dans de grands projets de construction, qui a accumulé de multiples richesses, qui a eu à son service quantité d'esclaves, et pour son plaisir, quantité de femmes. Le Qohélète ressemble à cet égard au roi Salomon, si ce n'est peut-être Salomon lui-même. Et ce matin, nous allons nous attarder sur toutes ces expériences qu'a pu faire le Qohélète et écouter justement son enseignement. Qu'est-ce qu'il en tire comme leçon? Et j'ai intitulé ce message « La vie, l'enquête », un petit peu en écho avec un autre titre, un peu parodié si on veut, Jésus l'enquête, et eh bien ici c'est la vie l'enquête, partie 1, parce que la semaine prochaine nous verrons un deuxième volet de cette enquête. Et il s'agit pour nous de comprendre pourquoi, malgré toutes ces tentatives, le Qohélète en vient à la conclusion que tout est dérisoire. Pourquoi, après avoir réalisé tant de choses, le Qohélète considère-t-il que cela revient à courir après le vent? Eh bien d'abord, nous allons commencer par ce que j'ai intitulé « La quête de la sagesse », les versets 12 à 18. Parce que lorsque nous lisons les premiers versets de notre texte, il semble que nous ayons affaire à quelqu'un qui dresse le bilan de sa vie, à quelqu'un qui est en fin de course sur la terre. Regardez le verset 12. « Moi, le maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. » Et je me suis appliqué, je poursuis verset 13, et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons sous les yeux le point de vue d'un monarque, d'un roi. Et ce dernier s'est lancé dans une quête qui demande du temps et de la réflexion. Voyez les verbes ici, étudier, examiner. Littéralement, chercher, explorer. Et voyez l'objet d'étude, tout ce qui se fait sous le soleil. Ça fait pas mal de choses à observer. Tout ce qui se fait sous le soleil. Et en fait, en hébreu, d'ailleurs, plus littéralement, nous avons tout ce qui se fait sous le ciel. Mais en fait, c'est la même idée. Et comme nous le voyons plus loin, eh bien cette quête est celle de la sagesse, celle de la connaissance, celle de la science. Il s'agit de comprendre comment notre monde est fait, de comprendre comment les sociétés humaines fonctionnent, comment résoudre les problèmes de notre monde. Voilà cette quête de la sagesse. Et le Qohelet souligne que c'est une occupation de malheur que Dieu impose aux hommes. Et peut-être que ça vous interpelle, de lire cela. Dieu impose cela aux hommes comme une occupation de malheur. Pourquoi ? Est-ce que le fait de s'intéresser à ce qui se fait sous le ciel ou sous le soleil serait une occupation de malheur ? Eh bien, regardons la suite. La suite qui ne nous étonne plus. Verset 14, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. » Verset 15, « Ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. » Examiner tout ce qui se fait sous le soleil conduit à cette conclusion. Tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Tout ce que l'homme peut faire est soumis à cette condition misérable. Aucune réalisation n'est parfaite. Et au contraire, nous trouvons dans le monde des choses qui sont tordues et des choses qui manquent. C'est ce que nous lisons au verset 15. Il y a des choses qui sont tordues et il y a des choses qui manquent. L'homme peut chercher à redresser ce qui est tordu, or tout ne peut être redressé. C'est ce qui nous est affirmé. L'homme ne peut pas, finalement, trouver de solution à tous les problèmes. En effet, si l'homme pouvait résoudre tout ce qui pose problème, combler tout ce qui manque, eh bien nous ne serions bientôt plus dans cette condition dérisoire. Or, si nous le sommes encore, c'est que l'homme n'est pas capable de redresser ce qui est tordu. En tout cas, il peut le faire partiellement, mais pas totalement. Le Qohelet, dans sa quête de la sagesse, a bien compris cela. Et c'est pour ça qu'il nous le dit. Et je pense que nous avons besoin, non seulement de l'entendre, mais de l'accepter. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Même avec beaucoup de sagesse, et nous voyons par la suite que le Qohelet, justement, s'est livré à beaucoup de sagesse. Même avec beaucoup de sagesse, cet état de fait ne change pas considérablement. Et aujourd'hui encore, plus de 2500 ans après la rédaction de ce texte, eh bien le constat est le même. Ce qui est tordu ne peut être redressé à bien des égards. Et le Qohelet n'a pas été paresseux dans sa recherche. C'est pas comme s'il a juste examiné un petit peu et puis il s'est dit, voilà, c'est ce que j'ai constaté. Non, il a vraiment exploré. Il a vraiment cherché. Regardez le verset 16. « Voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai considéré beaucoup de sagesse et de connaissances. » Verset 17. « Je me suis appliqué à connaître la sagesse et le savoir, ainsi que la folie et la déraison. » Et le Qohelet ici, eh bien, se compare à ceux qui ont régné avant lui pour affirmer qu'il les a surpassés en sagesse. Il a été plus sage que tous ceux qui ont été avant lui. Et donc, on peut faire confiance en son analyse. D'ailleurs, cette indication de ses prédécesseurs a fait dire aux uns que le Qohelet ne pouvait pas être Salomon. Ça ne pouvait pas être Salomon puisque un seul roi l'a précédé à Jérusalem. C'était son père, le roi David. D'autres disent qu'au contraire, eh bien, il s'agit bien de Salomon ici, et qu'il faut inclure dans tous ceux qui ont régné sur cette ville, eh bien, ceux qui ont régné aussi avant les rois d'Israël. En tout cas, retenons que le Qohelet a cherché à en savoir le plus possible dans sa quête de la sagesse, à comprendre comment fonctionne ce monde, jusqu'à même examiner ce qu'est la folie. Et nous en revenons à ce constat, verset 17. C'est comme courir après le vent. Verset 18, car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Nous comprenons peu à peu pourquoi cette tâche de la sagesse est une occupation de malheur. Parce que plus on a de connaissance, plus on comprend comment le monde est tel qu'il est, plus l'homme fait face à ce qui est tordu. à ce qui est affligeant. Et alors, c'est cause de tourment de voir tout cela. Et ce qui est d'autant plus affligeant, c'est qu'il ne peut rien y faire, en tout cas pas grand-chose. Il le constate, mais sa sagesse n'est pas d'une grande aide pour pouvoir changer les choses considérablement. Avoir autant de sagesse semble inutile puisque cela ne peut changer la condition humaine. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas chercher à comprendre le monde ou que c'est une mauvaise entreprise. Au contraire, puisque Dieu nous impose cela, de pouvoir chercher à comprendre le monde. Mais il faut en reconnaître les limites et être prêt à accepter la conclusion. Les malheurs de notre monde sont bien affligeants. Je vous donne un exemple. Nous avons beau comprendre les enjeux de la guerre qui se déroule en Ukraine. Nous serions peut-être capables d'expliquer à nos contemporains le pourquoi du comment. Cette sagesse que nous avons, cette connaissance que nous avons de la géopolitique ne nous permet pas pour autant d'arrêter ce conflit. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous avons beau savoir bien des choses, même comprendre pourquoi ça se passe ainsi, cette sagesse ne peut servir à arrêter ce conflit, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. De nos jours, nous nous rendons aussi compte, un autre exemple, collectivement, des efforts à faire pour diminuer notre consommation en énergie, pour freiner l'épuisement des ressources, pour être moins polluants. Je pense que de plus en plus on en parle et nous en avons tous conscience. Eh bien, cette sagesse en faveur de l'écologie demeure bien impuissante devant le dérèglement climatique, n'empêche pas le réchauffement de notre planète. Il semble qu'à ce sujet, ce qui est tordu ne peut être redressé. Et encore une fois, le discours du Qohelet n'est pas pessimiste. Il nous ouvre peut-être même les yeux sur ce qu'il nous faut constater. Dieu nous donne de comprendre le monde, de comprendre l'homme dans une certaine mesure, mais attention de ne pas tomber dans l'illusion que cela suffit. Au contraire, plus nous en savons et plus nous avons de quoi être chagrinés. Avoir beaucoup de connaissances nous permet de faire des progrès, des découvertes. Et je pense notamment au domaine de la médecine, par exemple. Oui, il y a son utilité à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne notre condition humaine, cela demeure frustrant et décevant. Malgré toutes ces découvertes, l'homme demeure toujours aussi mauvais. L'actualité nous le rappelle au quotidien. Nous avons beau chercher à être peut-être de plus en plus civilisés, mais l'homme demeure toujours aussi mauvais. Je relis le verset 13 dans une version plus littérale. Je pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Avoir plus de sagesse et de science ne nous élève pas au-dessus de notre condition. Et par cette occupation qui est nôtre, lorsque nous faisons des études, lorsque nous faisons de la recherche, ou lorsque tout simplement nous réfléchissons à la vie, eh bien par cette occupation-là, Dieu nous conduit à l'humilité. Parce que le constat est le suivant, tout est dérisoire. Et un commentateur disait aussi que cela faisait partie de notre dignité d'homme que de participer à cette réflexion. Dieu nous donne cette occupation de réfléchir à la vie, de chercher à comprendre le sens de cette vie. Pourvu que cette occupation nous mène à la même conclusion que le Qohelet, tout est dérisoire. Le Qohelet a tenté la voie de la sagesse et il a conclu que, effectivement, tout était vanité sous le soleil et que les sujets d'affliction eh bien, ne manquaient pas. Et l'enquête continue maintenant avec des expériences d'un autre ordre. Et nous allons voir notamment la quête de la folie, du travail et des plaisirs. La quête de la folie, du travail et des plaisirs, les versets 1 à 11 du chapitre 2. Je vais demander un petit peu votre participation. Dites-moi, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Alors, c'est pas un sujet de philosophie, hein. À votre avis, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Qu'est-ce qui constitue une vie réussie ? Ça dépend pour qui, mais dites-moi pour vous alors. La famille, c'est-à-dire? D'accord, avoir une famille où tout le monde est en bonne santé, ok? Une vie où on a bien investi. Dans quel sens investi? D'accord, pour ouvrir. Est-ce que d'autres veulent compléter là? J'ai ouvert la question, donc j'ai pas précisé. Autre réponse? D'accord, avoir une maison. Oui. Donc, être stable dans la vie, avoir la paix du cœur. Ouais. Autre chose encore? Un trésor qui dure, donc c'est comme ça dépend où on investit, oui. Donc qu'est-ce qu'une vie réussie? Et c'est vrai qu'on se pose la question dans ce monde. En tout cas, ce monde nous présente un certain modèle de vie réussie. Et je pense qu'on a tous plus ou moins en tête à peu près la même représentation. Et le Qohélète ne manque pas de ressources, lui qui a été roi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a été riche et il a pu tout se permettre. Et il dit d'emblée au verset 1 du chapitre 2 que même aller du côté des plaisirs, de la joie, eh bien c'est vain. C'est vanité. Cela ne peut pas satisfaire durablement. D'ailleurs, on peut se poser la question par rapport à la suite, le verset 2. Qu'est-ce qui est absurde dans le rire? Dans le rire. Lorsque le Qohélète dit « du rire, j'ai dit c'est absurde ». Mais qu'est-ce qui est absurde dans le rire? Qu'est-ce qui est dérisoire dans le fait d'être hilar? C'est bien connu que le rire permet de mettre à distance, surtout les choses difficiles. On dit parfois « il vaut mieux en rire, compléter, qu'en pleurer ». Mais est-ce réaliste d'avoir constamment une telle attitude? D'être toujours dans le rire plutôt que dans les pleurs, quelles que soient les circonstances de la vie? N'est-ce pas quelque part une fuite pour ne pas affronter la dure réalité de la vie? À la longue, le rire n'est pas une solution. Et je crois qu'il y a une part de vrai lorsque nous disons que beaucoup de rire masque beaucoup de souffrance. Je pense à cet acteur, Robin Williams, connu pour son humour, pour ses rôles dans différentes comédies, et qui s'est pourtant donné la mort. Alors bien sûr, il avait une maladie aussi, mais il s'est donné la mort. Le rire n'a pas pu vaincre le désespoir. Et vous avez peut-être d'autres exemples en tête. Donc le rire, oui, il y a un côté, c'est absurde. Et puis l'hilarité, à quoi cela m'avance-t-il? Et si la quête de la sagesse n'est pas satisfaisante, eh bien, regardons du côté opposé. Et c'est ce que va faire le Qohélète. Parce qu'après tout, de nos jours, et depuis toujours même, bien des hommes et des femmes en ce monde ont un mode de vie qui est tout sauf raisonnable. Alors le Qohélète va expérimenter le vin. Alors bien sûr, il dit au verset 3 qu'il va quand même continuer à se conduire avec sagesse. Il ne va pas entièrement se laisser aller. Il a besoin de garder encore cette lucidité. Il ne va pas complètement lâcher prise, mais il s'adonne au vin. Et Sylvain Romerowski dit notamment que l'évocation ici de la folie, qui est mentionnée au verset 3, fait référence à l'ivresse. Oui, le Qohélète essaye différentes boissons, il teste l'ivresse, mais il le fait avec mesure parce qu'il doit garder un peu de sagesse dans tout ça. Bien sûr, pour les Qohélètes, c'est vraiment expérimental. Il essaye cela pour vérifier, effectivement, si cela est bon pour les hommes de se conduire de cette manière-là. Mais ce n'est en aucun cas, je tiens à le préciser, un encouragement pour nous à faire comme lui. Oui, je voyais certains venir déjà. Donc c'est juste pour l'expérience. Et il fait cette expérience et il en conclut que, effectivement, eh bien, ça n'en vaut pas spécialement la peine. En tout cas, il passe tout de suite à la suite. Et les versets 4 à 9 me semblent particulièrement intéressants. Le Qohélète énumère tout ce qu'il a pu faire en tant que roi, tout ce qu'il a pu posséder, Et en tant que roi, il avait de nombreuses richesses. À deux reprises, il dit qu'il a fait mieux que ses prédécesseurs. Il les a surpassés en grandeur. Et si on regarde plus particulièrement les versets 4 à 6, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque vous voyez ces accomplissements, ces réalisations, est-ce que ça vous fait penser à un autre texte dans la Bible? Nabucodonosor, oui, effectivement, un roi qui avait fait de grandes choses et qui s'en est vanté. On peut penser aussi au premier livre des rois qui nous raconte tout ce que Salomon a fait. Et c'est vrai que quand on lit cette description, on se dit, bah ouais, ça ressemble beaucoup à Salomon, ça. Et nous pouvons aussi penser, en tout cas selon un des commentateurs, au récit de la création dans le livre de la Genèse. Et j'aimerais vous le démontrer. Regardez les versets 4 et 5, où il est question de planter. Je me suis planté des vignes. J'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Eh bien, lorsqu'on lit Genèse 2, verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient. Verset 5, il est question des arbres fruitiers de toutes sortes. Rien que cette expression devrait faire écho pour vous au récit de la création. Par exemple, dans Genèse 1, verset 11, « Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence, et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit. » Le verset 6, « Je me suis fait des bassins pour irriguer. » Et dans Genèse 2, verset 6, « De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. » Et on observe également dans les versets 4 et 5, 5 et 6, alors à la place de « je me suis aménagé », littéralement c'est « je me suis fait des jardins » et « je me suis fait des bassins », le verbe « faire » qui est répété plusieurs fois. Et bien sûr, dans le texte de la Genèse, vous vous souvenez qu'il est répété plusieurs fois que l'Éternel fit. Et puis peut-être un dernier exemple, le verset 6 avec les pépinières où croissent des arbres, et bien cela ressemble aussi à la formulation que nous trouvons en Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Qu'est-ce qu'on est en train de démontrer là? Que le Qohélète a en quelque sorte retenté de rebâtir son jardin d'Éden. Mais cette tentative, comme vous le voyez, est vouée à l'échec, puisqu'il finit par dire, notamment au verset 11, « Tout est vain, autant courir après le vent ». Mais il a tenté cela, de recréer en quelque sorte le jardin d'Éden. Et toute cette description, eh bien, ne nous étonne pas si nous considérons que c'est un roi qui évoque ses expériences. Il a eu tout ce qu'il voulait, il s'est fait plaisir, même musicalement, c'est ce qu'on voit au verset 8. Il a eu des chanteurs et des chanteuses. Et dans ce qu'il a fait, il n'a rien à envier à personne. Dans toute cette expérience, il le précise au verset 9, il n'a pas manqué de sagesse. Ni de joie d'ailleurs, c'est ce qu'on lit au verset 10. Il n'a pas manqué de joie dans ce qu'il a accompli. Et il peut le dire comme nous le disons parfois lorsque nous avons bien fini notre travail. J'ai joui de tout mon labeur et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Heureusement qu'il existe quand même une certaine satisfaction du travail bien accompli. Cela est permis, c'est la part qui m'est donnée. Mais cette part est bien limitée, éphémère. Et il suffit pour cela de lire le verset 11 qui suit. « Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et voici ma conclusion, tout est vain. Autant courir après le vent. On n'en tire aucun avantage sous le soleil. » Alors là, on soupire un petit peu parce qu'on se dit, après tout ce qu'on a dit concernant ce qui a été réalisé, ce qui a été fait, tous les plaisirs qui ont été possibles, eh bien, le bilan, le constat, c'est que tout est vain. Oui, il y a de la joie dans le travail réalisé, mais au bout du compte, soyons réalistes, cela n'a pas grandement changé notre condition humaine. Et en cela, le Qohélète n'y trouve aucun avantage. C'est pour ça qu'il dit cela. Il n'y a aucun avantage parce que ça ne change rien en fait, durablement. C'est une illusion de penser obtenir un bonheur durable dans une activité intense, dans la multiplication des projets, dans la foule des plaisirs que nous pouvons nous offrir. C'est vrai qu'on doit quand même, voilà, je ne veux pas noircir complètement le tableau, même si je reprends que ce que le Qohelet nous dit ici, mais il souligne quand même qu'il y a cette satisfaction. Oui, il y a cette satisfaction que nous pouvons retirer de ce que nous faisons. Et je pense que nous devons saisir cette satisfaction quand elle est là. Nous ne devons pas nous dire, voilà, tout est vain, je ne suis satisfait de rien. On doit saisir quand même cette satisfaction. Mais au bout du compte, le Qohelet nous amène à nous montrer que tout ne se résume pas à ça. Tout ne se résume pas à nos réalisations, à ce que nous pouvons faire ici-bas. Quelqu'un a fait remarquer d'ailleurs que dans ce jardin d'Éden que le Qohelet a tenté de reconstituer, il manquait un temple. Un lieu pour être en relation avec Dieu. Alors, est-ce à dire que le Qohelet a laissé Dieu de côté pour un temps ? Peut-être. Et pour reprendre encore les propos de Sylvain Romerowski concernant un exemple qu'il donne, le cas d'une église du Nouveau Testament. Une église qui a réalisé vraiment de bonnes choses, mais à qui il manquait le plus important. Et je lis ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, en Apocalypse chapitre 2, les versets 2 à 4. « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qui ne mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Voilà une église qui réalise de grandes choses, qui œuvre, semble-t-il, pour le Seigneur, et malgré tout, eh bien, le Seigneur a à lui reprocher que cette église a abandonné l'amour qu'elle avait au début. Et c'est là que Sylvain Romerowski finit par dire « Il arrive aux chrétiens de tellement œuvrer pour Dieu qu'il en laisse Dieu quelque peu de côté. » Cela nous fait réfléchir, n'est-ce pas ? De faire tellement pour Dieu qu'on finit par le laisser de côté. Sommes-nous élancés dans cette quête des œuvres pour le Seigneur, mais sans le Seigneur ? Et j'en appelle à une vigilance collective de nous tous. Et il me semble que l'un des symptômes qui doit constamment nous alerter, c'est lorsque la prière est reléguée au second plan dans nos activités. C'est symptomatique parce que cela révèle que nous dépendons moins de Dieu et plus de nous-mêmes. Et c'est pour cela que j'en appelle à la vigilance collective, que nous puissions voir si effectivement ce symptôme est parmi nous. Mais j'aimerais vous encourager, au contraire, à ce que nous puissions faire des efforts pour prier ensemble. Et d'ailleurs, tout à l'heure, un peu une annonce, mais tout à l'heure, à 13h45, nous aurons un temps de prière. Et je vous y invite, en tout cas, si vous pouvez être là. Le Qohelet a exploré tout ce qu'il pouvait explorer par la sagesse. Et son constat est « tout est vanité ». Il a cherché du côté de la folie, des grandes réalisations et des plaisirs à volonté, et il n'a pas changé de conclusion. Tout est vanité. Où est donc la satisfaction durable ? Vous imaginez bien que je ne vais pas m'arrêter là. Parce que sinon la conclusion serait que tout est vanité. Mais puisque nous avons l'ensemble de la Bible qui forme un tout, nous ne devons pas nous arrêter seulement à ce qui semble être une impasse dans notre texte. Et pour cette dernière partie que j'ai intitulée « La quête de la satisfaction », je vous propose qu'on puisse réfléchir un petit peu à cela. Comme je l'ai dit dimanche dernier, la nouveauté nous vient de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais la nouveauté nous vient de Dieu, de celui qui n'est pas limité par tout ce qui se passe sous le soleil. La nouveauté s'exprime par Christ, qui est venu dans notre monde et qui a vécu notre condition dérisoire. Et pourtant, nous ne pouvons pas dire que ce que Christ a accompli est dérisoire. La croix est tout sauf frustrante, décevante ou insignifiante. Nous pouvons dire cela de nos réalisations, de ce que nous faisons, mais la croix est tout sauf frustrante, décevante ou insignifiante. Ce que Dieu accomplit par la croix, et nous l'avons chanté tout à l'heure, est notre seul salut. Ce n'est que par la croix et par la résurrection aussi, que Jésus a rétabli cette relation avec Dieu. Cette relation qui était coupée à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. La croix, c'est l'œuvre par excellence qui fait pâlir toutes les autres œuvres. C'est le projet de Dieu qui surpasse tous les projets. Et ce matin, nous devons encore faire le choix, soit de nous satisfaire de tout ce que nous accomplissons ici-bas, soit de nous satisfaire de ce que Christ a fait pour nous. Nous l'avons vu avec le Qohélète. Si je me contente de ce que je peux accomplir avec mon intelligence, avec mon travail personnel, je serai satisfait pour un temps, mais seulement pour un temps. Ce que Christ a accompli par sa mort et sa résurrection a une portée éternelle pour celles et ceux qui placent leur confiance en lui. Et écoutons ce que Jésus dit dans son appel à le suivre. Marc chapitre 8, versets 35 à 36. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Le Qohélète possédait tout ce qu'il voulait. Et il a considéré que c'était vain. Jésus nous dit la même chose ici. Si un homme avait le monde entier, cela ne lui servirait à rien, car il lui manquerait l'essentiel. Christ, qui peut lui donner la vie. Et j'aimerais pour terminer dire un mot sur ce qui caractérise la culture de notre temps, même si rien n'est nouveau sous le soleil. Je parle de notre tentative de fuir la réalité en se livrant à toutes sortes de plaisirs et de distractions. Ou dans un autre extrême, en se lançant encore perdu dans le travail. Dans l'un comme dans l'autre cas, le Qohélète nous a démontré, me semble-t-il, que c'était dérisoire, que cela ne comble pas durablement. Dans son expérimentation, le Qohélète a parfois agi avec folie, tout en conservant un peu de sagesse. Mais malheureusement, en ce qui concerne nos contemporains, et parfois en ce qui nous concerne, nous n'agissons pas toujours avec sagesse. Nous cherchons à assouvir une certaine quête de la satisfaction. Et j'en veux pour preuve qu'en matière de consommation, on nous présente le slogan suivant « Satisfait ou remboursé ». C'est dans l'air du temps. Le Qohélète nous montre que c'est illusoire, que ce n'est ni dans les plaisirs, ni dans le dur labeur, ni dans l'accumulation des biens que nous serons satisfaits. C'est d'ailleurs une quête sans fin, si nous commençons à compter là-dessus. Mais vous connaissez déjà la réponse. Vous connaissez déjà celui qui donne du sens à la vie. Vous connaissez déjà celui qui vous suffit. Oui, comme nous l'avons chanté, la croix de Christ suffit pour notre salut. Et à cause de Christ, eh bien, l'apôtre Paul peut dire aux Philippiens, à propos de son passé de pharisien, vous vous souvenez de ce qu'il dit ? À propos de son passé. Nous l'avons aussi chanté tout à l'heure. Philippiens 3, versets 7 à 9. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain dans le passé, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Voyez combien Christ est précieux et combien il comble. Le connaître n'est assurément pas dérisoire ou décevant, en aucune façon. Et que cette semaine encore, eh bien, cela puisse constituer une priorité pour toi. Le connaître, ça, ce n'est pas dérisoire. Et cet été est peut-être l'occasion de remettre de l'ordre dans notre vie, d'arrêter de courir pour être juste au pied du Seigneur. Parce que cette part qui est la meilleure ne nous sera pas enlevée. Nous terminons ainsi la première partie de cette enquête sur la vie. sur la condition humaine. Et à partir de ces expériences, eh bien, le Qohélète est passé par la sagesse, par la folie, par les plaisirs, par les grandes réalisations. Et nous pouvons nous fier à son enseignement puisqu'il a tout essayé. D'ailleurs, ça nous épargne de tout essayer. Lui, il a tout essayé. Et il en conclut que tout est vain. Et c'est bien une parole de sagesse qu'il nous faut recevoir ce matin. D'autant qu'elle figure dans la parole de Dieu. Oui, Dieu veut que nous voyions le côté dérisoire de la vie, sans chercher à fuir. Et si notre espoir n'est pas dans ce que l'homme fait sous le soleil, il est à coup sûr dans ce que Dieu fait. La croix est la meilleure démonstration que ce que Dieu fait n'est pas dérisoire. Et je termine avec ces versets de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 18, puis 24 et 25. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Verset 24. Pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. La vraie sagesse est du côté de Dieu. Et cela tombe bien parce que cette sagesse est venue jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ. Alors à Dieu soit la puissance et la sagesse. Amen. Je vous invite à un moment de méditation par rapport à ce qui a été dit. L'occasion de nouveau de faire le point par rapport à ce que vous pouvez vivre en ce moment. En sachant que la solution à cette vie dérisoire ne se trouve pas sous le soleil. Mais la solution se trouve en Dieu, qui s'est révélé par Jésus-Christ. Nous te bénissons, notre Père, pour cette parole que nous avons encore entendue ce matin, qui n'est peut-être pas la parole qu'on pouvait espérer en venant ce matin. Parce que, effectivement, le constat que fait le Qohélète est un constat qui n'est pas très encourageant, mais pourtant qui est tellement réaliste. Et c'est vrai que nous pouvons te faire confiance, puisque tu nous as révélé ta parole de cette manière-là. Nous pouvons faire confiance dans le constat que fait le Qohélète, tout en tournant nos regards vers toi, et en considérant, puisque nous avons ce privilège, en considérant la croix. En considérant que, oui, la croix seule nous suffit pour nous satisfaire, pour nous sauver. Pour que, effectivement, nous ayons cette relation personnelle avec toi. Oui, la croix seule suffit. Et aucune de nos réalisations, aussi sage soit-elle, ne peut parvenir à un tel résultat. Oui, dans tout ce que nous faisons, il y a quelque chose de dérisoire. Il y a quelque chose qui reste frustrant pour nous dans cette vie. Mais dans ce que tu as accompli, Seigneur, il n'y a rien de dérisoire. Et nous te bénissons pour cela. Parce que c'est ce qui nous donne de l'espoir, c'est ce qui nous permet de lever la tête au milieu de ce constat. Et permets-nous, Seigneur, de chérir comme l'apôtre Paul ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ. De nous attacher à connaître notre Sauveur et notre Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous et qui nous permet ainsi d'avoir la vie à notre tour. Alors oui, nous te demandons, s'il te plaît, que là où c'est nécessaire de nous rappeler à l'ordre, que tu nous rappelles à l'ordre. Et là où nous pouvons considérer de nouveau les priorités dans notre vie, nous puissions considérer cela à la lumière de ta parole. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.